Aïka.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 mai 2023. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission sportive favorite du lundi soir avec son générique préparé par Pierre Marcel que je remercie encore une fois au passage. Ce soir à mes côtés, il est heureux parce que il n'a pas perdu, hein, ça fait un mois tout juste voilà, que son équipe n'a plus perdu. Il doit faire quand même quelque chose de spécial. Hein. Il a donc tenu à venir partager ce moment spécial avec nous. On est ravis de le retrouver en studio, notre mauve préféré, Henri Daniel. Salut Henri, comment vas-tu?
Écoute, je vais bien, je suis serein.
Serein, pas comme le...
Pas comme le football club, serein.
Voilà, mais...
Ils sont invaincus aussi, ceci.
C'est ça, ça fait bien tout ça, c'est... Eh ben écoute,
tant mieux,
on est content de te retrouver. Et on va, en face de toi, on reconnaît bien sûr... C'est la musique qui le caractérise. Il va nous apporter, comme chaque semaine, son sens de l'analyse de ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Je crois qu'il a fait un petit tour de l'autre côté de la frontière en plus ce week-end. Il nous en parlera certainement. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit bonjour à Blaise van der Linden s'il nous écoute. Et vous comprendrez pourquoi. Il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu?
Bonsoir Sam, bonsoir à tous. Bah, comme tu l'as dit, un petit week-end foot, c'est toujours sympa.
Exactement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal à se faire du bien et à regarder, à aller voir des matchs de foot ou à les regarder à la télé. Ce soir au programme, une actualité des plus excitantes. On va commencer bien sûr par la Jupiler Pro League qui nous offre un final qu'on peut qualifier d'haletant. C'est le moins qu'on puisse dire. Le titre se jouera donc entre trois équipes. Aucune des trois équipes n'est pour l'instant mathématiquement éliminée. On décortiquera les résultats du week-end.
Tu vas sortir les machines à calculer.
Et voilà, le calendrier à venir et les différentes hypothèses. Comme tu l'as dit, on va un petit peu se projeter. On verra que c'est pas si compliqué. Hein. Voilà. Mais bon, quand même, il y a trois scénarios possibles.
On ouvrira des nombres qui commencent par 4, c'est loin.
Oui, ça c'est...
On est dans des sphères qui sont compliquées pour nous.
On ouvrira ensuite le volet Coupe d'Europe avec, bien sûr, la formidable démonstration de Manchester City face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. J'imagine que vous avez apprécié ce match, vous qui êtes en studio et vous qui êtes derrière votre radio ou sur, qui nous regardez sur Facebook ou sur l'application sur le 90.2 FM sur radiojudaica.be si vous êtes sur Internet. Et puis on jettera un œil sur les divers championnats européens, ceux dont l'issue est déjà connue, ceux dans lesquels, pour lesquels il reste encore quelques pas à franchir, à faire pour devenir champion. On va voir tout ça, il y a du suspense encore un peu partout. Et bien sûr, on aura la Minute Sportimize avec toi Alex. Il sera question, je crois, de course automobile, et plus précisément de Formule 1, enfin de course ou de non-course plutôt.
Ou de non-course.
On n'en dévoile pas plus, je pense que les gens ont dû comprendre. Je pense qu'il est temps de donner le coup d'envoi. Il est temps de donner le coup d'envoi et on va commencer, comme je l'ai dit, par notre championnat de Pro League, la Jupiler Pro League. Alors, on jouait ce week-end la 4e journée des playoffs. La course au titre est serrée, de plus en plus serrée peut-être, à 2 journées du terme. 3 équipes donc peuvent encore être sacrées championnes de Belgique. Les 3 équipes, c'est l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise et Genk. Alors avant cette journée, l'Antwerp comptait 1 point d'avance sur l'Union et 4 sur Genk. Et on va commencer dans l'ordre chronologique, si vous le voulez bien, puisque c'est dimanche, hier, c'était donc tout d'abord les leaders au classement, les Anversois, qui se déplaçaient sur la pelouse de leur grand rival et champion en titre, rappelons-le, le club de Bruges. Deux dynamiques assez différentes, puisque jusque-là, les Anversois avaient remporté leurs 3 matchs, donc 9 points depuis le début du play-off, tandis que les Brugeois, eux, avaient perdu leurs 3 premiers matchs, dont, on s'en souvient, la semaine dernière, un match qu'ils n'auraient pas dû perdre. En tout cas, ils avaient les cartes en main pour ne pas le perdre, ils n'ont pas ramené un point d'Anvers. On se doutait donc que les Brugeois auraient à cœur de changer un petit peu le cours des choses. On sait que leur sort est déjà scellé, hein, puisque en raison de leur nombre de points d'écart avec Genk, ils sont sûrs d'être quatrième, et comme l'Antwerp a remporté la coupe, eh bien, il y aura même pas de barrage avec le premier du play-off Europe. Donc voilà, les Brugeois avaient une chose en tête, on s'en doute, c'était donc de changer le cours des choses, de gagner, et en plus, peut-être même encore plus, de contrarier le plus possible les ambitions de l'Antwerp en lice pour un doublé qui n'a pas été réalisé depuis 27 ans. Et on peut dire que les Brugeois ont répondu présent, même si ça n'a pas été aussi simple que ça. Ils l'ont emporté 2-0, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est écrit quand même que cette saison sera particulière pour les Brugeois, pour les Blauw en Zwart jusqu'au bout, puisqu'ils ont gagné effectivement 2-0. Mais les buts sont venus de Kasper Nielsen, qui a joué 14 minutes la semaine passée après 4 matchs sur la touche. Il était remplaçant.
Il faut dire qu'il était blessé aussi.
Il était blessé.
Kasper a eu des problèmes aux adducteurs une grosse partie de la saison. Et malgré ça, il a quand même encore joué ses matchs et il est le troisième meilleur buteur du club.
Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Brugeois avaient un plan sans doute pour essayer de contrarier au maximum les Anversois. Clinton Mata s'est blessé ou semblait amoindri en début de match, il est sorti à la mi-temps. Et c'est donc Kasper Nielsen qui est monté au jeu et qui a marqué 2 buts. Donc quand je disais que c'est un peu particulier, c'est que même quand le coach sans doute a mis une stratégie en place, elle est un peu bousculée par les blessures, par les aléas du match. Mais comme tu l'as dit, Nielsen, c'est un formidable battant. Il a joué en serrant les dents une partie de la saison et là il est revenu à point nommé pour marquer 2 fois. Il a marqué à la 51e, à la 62e et a donc permis à Bruges de l'emporter. Alex, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé, toi qui es, on le sait, un peu Blauw en Zwart, quand même.
Je pense que c'est un malentendu, comme tu dis, que Bruges finalement puisse gagner ce match, parce que la première mi-temps était dramatique des deux côtés.
Tu as
eu 2 occasions et encore, c'était pas terrible, c'était laborieux des deux côtés. Et finalement, ce changement, parce que Mata jouait tout à fait le flanc droit. Et donc il y a le changement de tactique et il y a Kasper qui monte et j'ai l'impression qu'il se cherchait un petit peu entre Ritz, Onyedika et Kasper. Il y a eu des permutations en début de mi-temps.
Ouais, Ritz a joué un peu plus haut
ils interchangeaient, et c'est ça qui a permis à Kasper d'être seul et que finalement son homme ne l'a pas suivi. Donc c'est pour ça que finalement c'est une grosse erreur défensive de reconversion de l'Antwerp.
Oui, parce que
c'est pour ça que Bruges marque, mais sinon je ne le voyais pas venir
sur les deux goals.
Non, le premier.
Le premier, en tout cas, il y a une...
Le deuxième, il y a une grosse erreur aussi. Il y a une perte de balles et Nielsen court tout seul sur le flanc droit brugeois, donc le gauche anversois. Il se retrouve nez à nez avec Buté, mais normalement, tu ne peux jamais, jamais, jamais être seul à cet endroit-là du terrain.
Donc, mais c'est vrai que sur le premier but, revenons sur le premier but qui résulte d'une belle construction. Hein. Noah Leng était sur le côté gauche, il envoie en profondeur Meyer. Qui fait un beau centre en retrait, mais c'est vrai que le travail, tu l'as souligné, le travail de la frappe est superbe de Nielsen, mais le travail c'est aussi de tous les attaques des 3 Brugeois qui étaient devant, qui ont véritablement aspiré la défense. Et je crois qu'on voit je regardais sur les ralentis, ils sont peut-être 5 Anversois à suivre les 3 qui rentrent dans la surface, et donc ils se retrouvent seuls. Il envoie un missile superbe pour ouvrir la marque. C'est ça. Ils ont été un petit peu obnubilés par les 3 de devant en oubliant Kasper Nielsen sur le 3.
Ça reste une erreur défensive. On n'est pas habitué de l'Antwerp de voir ce type d'erreur. Et ils ont quand même encaissé 5 buts en 2 matchs, certes face au champion en titre Bruges, mais ce n'était plus arrivé depuis 16 journées non plus qu'ils encaissent autant.
Ouais, ça va être. Est-ce qu'on peut y voir là? Parce que en regardant ce match, tu l'as dit, la première période, dans l'ensemble, les Anversois ont semblé moins bien. Alors on ne peut pas enlever le mérite, bien sûr, au club de Bruges qui jouait à domicile, qui devait être sacrément motivé pour ne pas laisser filer son rival vers le titre. Mais ils ont semblé quand même moins bien que les semaines précédentes, en manque d'intensité, de vitesse. Il manquait un peu de tout, et peut-être même aussi de la nervosité. J'en veux pour preuve la toute fin de match avec l'intenable
Noah Lang
qui nous a fait une
Vandenborg.
C'est ça, voilà, il a mis les deux pieds sur le ballon en mode.
C'est pas brugeois, mais je pense que si Didier nous écoute ou s'il avait été là, il serait d'accord avec moi. Ce n'est pas brugeois, l'esprit. Ce n'est pas dans l'ADN du club de Bruges, ce genre de numéro de cirque, on le voit effectivement à Anderlecht, mais ce n'est pas brugeois. Et. C'est ça qui gêne un tout petit peu. Et je comprends Toby Alderweireld, parce que l'Antwerp joue un très bon football depuis toute la saison. Certes, ils ont été éliminés par Başakşehir en Conference League
très tôt
dans la saison. Ils ont connu un petit passage à vide par après, mais ils avaient quand même remporté leurs 9 premiers matchs, si je ne m'abuse, de championnat. Ouais. Et à aucun moment, cette équipe qui a un peu un ADN similaire au club de Bruges, soyons francs, a commencé à jouer, à provoquer l'adversaire de cette manière-là. Donc Lang, c'est son dernier match à domicile parce qu'il est suspendu face à Genk. C'est jouet, c'est peut-être drôle, mais ça ne cadre pas dans la philosophie de Bruges. Et donc je peux comprendre la réaction de Toby.
Surtout dans le cadre des play-offs où ils sont passés à côté.
Oui, c'est ça.
Ils gagnent ce match-là, mais ils sont quand même passés à côté. Ils ont déçu. Mm-hmm. Ils se sont qualifiés vraiment en dernière journée de championnat pour les play-offs, les Champions play-offs.
On les a qualifiés. Enfin, Ostend les a qualifiés.
C'est ça. Donc ils n'avaient même pas leur sort entre leurs mains.
Mais c'est vrai que c'est. Ouais, bon, on le connaît.
C'est un peu immature.
Quoi. Ouais, voilà, on le connaît un peu exactement. Il est toujours un peu immature, Noah Lang.
Je suis quand même pas d'accord de la réaction de Toby Alderweireld parce qu'il vient de donner un coup. C'est pas utile.
Non, mais je comprends sa frustration.
Frustration, voilà, c'est vrai que...
Mais avec son expérience, un capitaine de l'équipe qui risque d'être champion de Belgique, avec son palmarès en équipe nationale. Mmh. Non, et puis il y a tapé un jeune comme ça, qui est justement... C'est plus d'immaturité qu'autre chose.
C'est ça, et puis la nervosité aurait pu gagner un petit peu tout le monde. Il est venu se chauffer un peu, on ne sait pas si ça commence un petit peu à monter.
Ça a déjà commencé bien avant, et pas le match d'hier, mais bien avant dans le championnat. Hein,
donc, j'imagine.
Mais sur ce match-là, une fois que le match est perdu, de toute façon, un footballeur qui réagit de manière sanguine un peu à ce moment-là, donc il n'y a pas de... On ne peut pas tellement le raisonner, mais c'est vrai que venant de lui, ça aurait pu... on pouvait penser qu'il serait un petit peu... Un peu plus maître.
Ça reste un humain, même avec son expérience.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Ce que Toby est en train de faire avec l'Antwerp cette année,
bravo.
Il a gagné je ne sais pas combien de titres avec l'Ajax, il n'en a pas gagné à Tottenham, mais il a quand même joué la Première Ligue. Ce qu'il est en train de vivre avec l'Antwerp, c'est une magnifique histoire. Hein. C'est presque Netflix là, j'ai envie de dire, ce retour en Belgique. Et donc, c'est aussi le championnat le plus indécis depuis plusieurs années. Je pense que la dernière fois, c'était Gand qui avait été champion dans un championnat comme ça. Et encore, c'était deux journées avant la fin aussi. Ici, tu ne sais pas, tu peux te retrouver dans un scénario qui se décide à la dernière minute du dernier match de championnat. Un peu comme en Allemagne, on y reviendra peut-être plus tard.
Ouais.
Mais donc, la pression, elle est énorme. Et là, l'Antwerp, ils ont été bombardés favoris toute la semaine par les médias, ce qui est un jeu qui se joue chaque année avec d'autres équipes et d'autres protagonistes. Et là, tu passes complètement à côté de ton match. Janssen est sur une île déserte. Bruges joue d'une tactique inattendue par Van Bommel aussi. Donc, tu as tout ça qui fait que ça frustre tous les joueurs de l'Antwerp. Et effectivement, Toby peut se permettre peut-être un petit peu plus, et il l'a fait.
Et peut-être aussi que c'est instinctif et c'est une réaction, mais que ça montre aussi à ses coéquipiers que on perd le match, d'accord, mais on se fait pas marcher dessus, on se fait pas ridiculiser par l'adversaire, on est là. Et c'est vrai que pour le reste de match,
il est resté calme. Je connais des joueurs, celui qui va se mettre sur le ballon, il y en a un qui va arriver et mettre un shot et pas dans le ballon. Hein.
Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un joueur brésilien qui n'a rien fait à part ça. Il avait un geste, il jonglait de la tête en avançant. Il appelait ça le Foquinha, le petit Foc, on le surnommait. Et j'avais vu une vidéo, il y a un défenseur qui n'avait pas du tout apprécié, lui avait mis un coup de pied dans la poitrine carrément, rouge. Donc parfois, oui, c'est vrai, je comprends que ça puisse être un petit peu agaçant pour le défenseur de se voir comme ça, un petit peu ridiculisé. Est-ce que oui, tu as parlé de la stratégie de Van Bommel. Est-ce que il a essayé de s'adapter? Il a fait qu'est-ce qui
Où il a loupé, j'ai vu, non, ils jouaient leur jeu classique, donc 6-7 secondes de pression sur le ballon, et puis tout le monde retournait derrière, mais tu avais un grand espace parce que Bruges jouait relativement bas aussi à un certain moment, tu avais un très grand espace entre le milieu de terrain et Janssen qui ne recevait aucun ballon utilisable, et toute cette frustration a grandi du côté de l'Antwerp à ce moment-là aussi.
Oh. Ce serait la pression, je crois.
Oui, il y a de
la peur
pression,
de gagner.
Oui. Non, la pression.
La pression joue. Médiatique.
La pression joue. Après, l'Antwerp savait, le pire des scénarios pour l'Antwerp, c'était que l'Union gagne hier soir à Genk. Oui. Ce qui n'était pas gagné, je l'avais, comme j'avais dit. Moi, je m'attendais à 4 victoires à domicile dans tous ces back-to-back. Bon, il y en a 3 finalement et un match nul. Mais donc finalement, les cartes ne sont pas beaucoup plus.
C'est ça.
N'ont pas beaucoup changé, pas tellement en fait, changé par rapport à
ouais.
il y a 2 semaines.
Oui, parce qu'il y a l'histoire, on va en parler, mais il y a l'arrondi qui fait que ça changera, ça change la perception aussi des choses. Les Anversois donc, vont jouer la semaine prochaine à domicile face à l'Union. On passe à l'Union, donc. L'Union qui se rendait à Genk. C'était un match couperet. Le leader de la phase régulière, donc Genk, qui, on peut le dire, a. Baisser le pied pardon, depuis un petit temps.
Avant les play-offs.
Oui, ouais, avant les play-offs. Ils ont réussi à revenir un petit peu. Mais...
Ils ont eu 12 points d'avance. Hein,
ouais, ouais, ils ont eu une avance incroyable et ils finissent avec le même nombre de points que l'Union. Et pour eux, la défaite était interdite parce que dans ce cas-là, c'était. Ils auraient été à 6 points de l'Union. 6 points. Ouais, ils auraient été out. De son côté, l'Union pouvait prendre la tête du championnat en cas de victoire. Il jouait après le match de l'Antwerp, donc il connaissait le résultat. Il pouvait prendre la tête du championnat, mais comme l'a dit la Poussin à l'issue du match, de toute façon, même en prenant la tête du championnat, la finale, ou finale entre guillemets, se jouera la semaine prochaine, puisque l'Antwerp aura la possibilité, en cas de victoire, de faire un grand pas. Et même s'ils avaient été deuxième, ils seraient repassés devant. Il y avait le match donc s'est achevé sur un partage, un but partout. Est-ce qu'on peut penser que ça s'est joué sur pas mal de choses? Il y avait quand même deux facteurs clés, je dirais, au niveau des compositions. Le retour de Mike Trésor, qui était absent, et côté Union Saint-Gilloise, c'était l'absence, en revanche, de Teddy Thomas, qui était juste, un peu trop juste physiquement. Une première mi-temps, et notamment des 20 ou 30 premières minutes qui ont été sacrément emballantes. Ça jouait, ça courait dans tous les sens. Et c'est les Genkois qui ont ouvert la marque par l'Américain Mark McKenzie sur une merveille de coup franc. Il a un pied droit qui travaille le ballon comme assez peu de monde. Mike Trésor, il l'a téléguidé sur McKenzie qui arrivait de l'arrière et qui a donc... exécuté quasiment Maurice qui pouvait pas faire grand chose. 23e assist de Mike Trésor.
Pas mal.
Énorme.
Ah oui, il est... Et on s'étonnait, on avait parlé.
Avec sa cible préférée qui est partie ouais, à Noël.
C'est vrai. Il a
parce que sur le 23, je sais pas combien on était sur
Nuochu. Ouais. En tout cas, il y a une sélection qui s'approche dans un petit mois. Il y a des matchs. Dans 3 semaines même.
Contre l'Autriche.
Ouais, je pense que... Enfin, je sais pas, mais si le sélectionneur regarde bien tous les matchs, il y a un joueur, ce Mike Trésor, il va sans doute bientôt...
Je ne le vois pas titulaire. Je
parle non, mais au moins...
Il y a un certain Kevin De Bruyne.
C'est vrai, on va en parler de lui aussi. Revenons au match, donc Trésor qui a donné l'assist à Mark McKenzie. Et l'égalisation est venue peu avant la mi-temps avec une superbe action à la pas vraiment à
Boniface.
Ouais, Boniface qui a fait un petit crochet derrière son pied et enchaîné un missile dans la lucarne. Après, surtout moi j'ai trouvé le débordement, enfin pas le débordement, au contraire l'accélération pour se remettre à l'intérieur d'Adingra qui avait reçu le ballon sur le côté. Superbe action des Saint-Gillois pour égaliser. Ils auraient pu marquer plus tôt, ils auraient peut-être dû mener, non, à la mi-temps, peut-être.
On parle d'Adingra, il a quelques balles dans le rétro.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc le match s'est terminé sur ce score. La première mi-temps a été emballante, la deuxième moins. Il leur a manqué peut-être, il leur a manqué de l'efficacité non, à l'Union Saint-Gilloise.
Oui, mais ils savent pas l'avoir à tous les coups. Rappelle-toi le match à Genk pendant la compétition régulière. C'est 1-2, ça vient de nulle part. Donc...
Ouais.
Il y a un moment où ça s'équilibre aussi.
Ils ont gagné des matchs en ayant moins d'occasions que ça.
Oui, on est d'accord.
Il y a eu quand même pas mal d'occasions contre un club qui était aussi qui avait un enjeu, quoi. C'était un match en jeu comparé par rapport au match de Bruges qui avait plus d'enjeu si ce n'est l'honneur.
Ouais.
Là, il y avait de l'enjeu pour les deux équipes parce que le Genk ne pouvait pas perdre. Et l'Union connaissait le résultat de l'Antwerp qui avait joué plus tôt dans l'après-midi.
C'est vrai, mais c'est vrai qu'ils ont manqué de tranchant peut-être dans le dernier geste particulièrement. Alors c'est vrai qu'on, comme tu le dis, ça s'équilibre peut-être sur une saison, mais là c'est vrai que ça peut créer peut-être quelques frustrations.
Après ils ont de la réussite à la dernière minute.
Oui, il y a ces dernières minutes, ce temps additionnel où le sort du championnat presque aurait pu tourner, et notamment sur cette glissade. Anthony Morris, il avait commencé à sortir en se disant peut-être que je ne sais pas ce qu'il faisait exactement là, il était lui-même peut-être qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait là, et donc il est revenu, il a couru vers son but. En plus je crois qu'il court d'habitude, les gardiens de but quand ils se replient ils essayent de rester face au jeu et de courir en reculant. Là il s'était retourné, il courait, il a glissé, ce qu'a vu Samata qui a tenté un lob qui est passé tout près. Et ça aurait été ballot de perdre le match sur ça. Et puis dans la foulée, c'est Vertessen qui met un missile. Il est pas loin, il est un peu excentré, il est même bien excentré quand même sur la droite. Et il envoie un ballon dans le petit filet. Donc ça aurait pu tourner, mais ça n'a pas tourné. On est donc resté à un but partout. Un match qui était plaisant quand même, en première mi-temps en tout cas, un peu moins en deuxième. L'enjeu n'a pas tué le jeu, comme on dit parfois, un petit peu quand même.
À la fin, les deux équipes ont un match nul qu'elles ne veulent pas
laisser
filer. Mais pour Maurice, ça arrive même au meilleur. Donc.
C'est vrai. Et donc au classement à l'issue de cette journée, on a un classement qui est on ne peut plus serré. L'Antwerp compte 45 points, l'Union 45 points aussi, et Genk 42 points. Mais l'Antwerp possède un avantage puisque, à la différence de ses deux concurrents directs, les Anversois n'ont pas bénéficié d'un arrondi de points. Et donc s'ils finissent à égalité avec l'une ou l'autre des deux équipes, eh bien ils seront sacrés champions. Champion de Belgique. La semaine prochaine, c'est l'Antwerp contre l'Union et le club de Bruges contre Genk. Comment est-ce que vous voyez ces deux matchs ? J'ai une question d'abord.
Pour que Genk soit champion, il faudrait qu'il n'y ait pas de match de l'autre côté.
Voilà, c'est ça. Il faut que... Déjà, les Genkois doivent l'emporter. Ils n'ont pas vraiment leur destin entre leurs mains, mais ils doivent l'emporter face à Bruges. Et le meilleur scénario pour eux, effectivement, tu l'as dit, Henri, c'est qu'il y a un partage à Anvers entre l'Antwerp et l'Union, auquel cas les trois équipes se trouveraient alors en un point. On disait tout à l'heure qu'il y avait plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses, mais comme tu le disais, Alex, elles ne sont pas si compliquées que ça. Si l'Antwerp l'emporte, ils sont champions. On est d'accord ? Mmh. On est bien d'accord. Si l'Union l'emporte, ils auront alors 3 points d'avance sur l'Antwerp. Et ils auront alors comme mission de ne pas perdre lors de la dernière journée au Stade Marien face à Bruges. Et c'est là que je me pose la question, j'ai aucune... comme l'OM, c'est en fait les 30 ans de la victoire de l'OM
en Europe.
Et donc, le match d'avant, c'était face à Valenciennes. Y a des idées qui me viennent en tête, y a des idées qui me trottent dans la tête. Alors là, ce ne serait pas exactement comme ça, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une tentation pour les Brugeois de se dire, tiens, la saison a été bien longue, on ne va pas appuyer plus que ça sur le champignon au risque de... faciliter la tâche.
Il y avait certains qui voulaient botter le cul des équipes de tête. Donc
Exact. Non, mais je pense que on va pas.
Mais là, tu es en train de mélanger plusieurs trucs. Tu parles d'OM Valenciennes qui a eu un arrangement. Je sais, non, mais c'est.
Absolument, non, je sais pas.
C'est un match.
Absolument,
là,
absolument.
Il y a une suggestion de passivité.
Exactement.
Ce serait peut-être un.
Je vais, t'as raison, je vais associer ça à un autre épisode du championnat de France et ça va être. Je vais prendre une pierre dans mon jardin. C'est, je crois, en 1999. À propos de jardin, voilà. En 1999, je crois. Où à la dernière journée, le Paris Saint-Germain recevait Bordeaux qui était en lutte avec l'OM et ils ont gentiment levé le pied. Épisode assez amusant, il y avait un Brésilien à Dailton qui n'avait pas mis un pied devant l'autre, qui ne jouait pas terrible. Il a marqué un but en étant hyper content et ses coéquipiers l'ont quasiment engueulé parce qu'ils étaient en disant mais qu'est-ce que tu fais, c'est l'OM qui va être champion. Non, on va pas préjuger de l'attitude des Brugeois. En tout cas, ils sont un petit peu les... Ils vont être arbitres dans cette...
Ils n'en ont pas de l'attitude. Et dans le championnat belge, il y a des équipes qui sont en D1B aujourd'hui. Pendant 17 ans, cette équipe a vendu sa deuxième partie de saison. Une fois que l'équipe était sauvée, elle vendait au plus offrant. Et alors, c'est en fonction de « Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Ah, de l'argent. Ah, un joueur, une négociation. Tu nous achètes ce joueur ? Oui, ok, mais tu le prendras un peu plus cher que ce qu'on avait convenu. » Il y a un tas de trucs comme ça qui se passent. Il ne faut pas se voiler la face. Mais ici, c'est plus passif et c'est surtout ce problème sous-jacent entre Verag d'un côté et Paul Gessens de l'autre pour des terrains, des stades, des choses pareilles. Qui refait surface aujourd'hui, mais d'un autre côté, qui que ce soit qui soit champion, ce sera juste un titre de champion, parce qu'il n'y a pas le pactole de la Ligue des Champions derrière. Là où Bruges a gagné près de 150 millions les dernières années, grâce à cette Ligue des Champions, je mets en parenthèse aussi, une fois que Bruges s'était qualifié tout seul, quand Genk a été champion, en passant tous les tours préliminaires, mais tu n'as pas cette carotte financière énorme non plus. Donc, ça ne changera pas énormément.
Rappelons-le, le champion de Belgique l'année prochaine, en Ligue des Champions, il rentrera en
tour préliminaire. Troisième tour, et il faut savoir que le quatrième tour, ça s'appelle les play-offs maintenant.
C'est ça, ouais.
Donc, effectivement, il n'y a pas le comme tu le dis, ce n'est pas le jackpot en 4 titres, enfin, pas de jackpot automatique.
Et en plus, que ce soit l'Antwerp ou Genk, à mon avis, ils ne seront pas tête de série. Donc.
Moi, je pense quand même que la semaine prochaine va être déterminante et il n'y aura pas place à des collusions, des choses comme ça. Je pense que...
Tu penses que l'Antwerp va gagner? Ah, c'est la seule possibilité.
Non, mais c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que c'est effectivement, si l'Union l'emporte, là, la Bruges va se retrouver à jouer un dernier match. Et de toute façon, je pense qu'ils n'auront pas il faut pas non plus minimiser la force des adversaires de Bruges. C'est pas parce que, enfin, Bruges visiblement a raté franchement sa saison à peu près. En tout cas, il y a pas de raison qu'il le club de Bruges a raté sa saison. C'est pas eux qui vont décider de dire non, on va jouer un petit peu moins bien là. Ils ont été dominés par les autres équipes et risquent d'être dominés aussi.
Si l'Union va à l'Antwerp, Genk est sans ambition non plus. Il joue un dernier match sans ambition.
Il joue un dernier match sans ambition, voilà. Ce sera à ce moment-là qu'il y aura un match... Est-ce que... Non, parce que si...
Il y a l'Europe encore. Hein.
Ouais. Ah, oui, parce que la deuxième place, elle est qualificative pour le tour préliminaire, pour le troisième tour qualificatif.
Tout dépendra du résultat de Genk. Si Genk gagne à Bruges et que l'Union bat l'Antwerp, Antwerp-Genk se retrouve avec 45 points, et là, tu as la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions... qui, enfin, entre guillemets, qualificatif pour la Ligue des Champions, donc pour le tour préliminaire, qui est intéressante. Mais...
Qu'est-ce qui est dans l'ordre, le demi-point ?
Le demi-point.
Et après, si c'est Genk et l'Union ?
Après, c'est le nombre de victoires, le goal average, les matchs en...
Les victoires en play-off ou les victoires sur la saison ?
Toute la saison, parce que tu as divisé les points, donc tu as gardé l'accumulation de tout le reste, je pense.
Ouais.
Parce que c'est un cas de figure qui est possible pour la deuxième place ?
Oui, c'est ça.
Non, s'il termine à égalité, l'Antwerp reste devant Genk, quoi qu'il arrive, parce que l'Antwerp n'a pas eu ce demi-point.
L'Antwerp et Genk, je parlais de l'Union et Genk.
L'Union et Genk, moment-là, ouais, mais ça, c'est quasi... Il y a peu de chance, quand même, je pense, non ?
L'Union et Genk, il faudrait que Bruges gagne le dernier match et que Genk gagne ses deux matchs, qui finiraient tous à 48. Tous les deux à 48, en tout cas. Mais ce serait... Oui, effectivement.
Mais de toute façon, la deuxième place est beaucoup plus intéressante parce que tu as ce système de cascade européenne aussi. Donc, tu vas être qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mettons que tu vas perdre, tu vas être reversé en Europa League. Tu es qualifié pour un tour préliminaire en Europa League, tu le perds, tu vas être reversé en Conference League. Et même entre la Conference League et l'Europa League, il y a quand même une différence de 6 à 8 millions sur l'année. Qui rentre, donc c'est quand même très intéressant pour tous les trois clubs en fait d'être le plus haut possible.
Ouais.
Donc ça vaudra la peine d'être vécu. Évidemment.
Ouais, c'est vrai qu'on va avoir deux dernières journées passionnantes.
Je me demandais ce qu'allait être cette année, ces playoffs à 4.
Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu plaint, on s'est plaint du système, mais c'est toujours, voilà, avant qu'on soit en situation, qu'on se plaint de ce qui pourrait arriver, et là, c'est vrai qu'on est
gâté. Moi qui suis spectateur neutre. Alors justement, par la force des choses.
Justement, on se demandait comment un supporter invaincu depuis...
Eh bien, comme j'ai dit au début, je suis serein. Notre sort est jeté, donc je peux regarder les matchs de football comme un amateur de foot.
Et jusque-là, quelle équipe a tes faveurs
Mais en toute objectivité, tant que Bruxellois, l'Union quand même.
L'Union, c'est vrai.
C'est bizarre, mais je pense que pour un supporter d'Anderlecht, il y a plus de rivalité avec le Rodem. En tout cas, ma génération, peut-être les générations précédentes, c'était différent parce qu'il y avait le White Star, etc. Mm-hmm. Mais dans ma génération, on est plus... je serais plus embêté de voir un Hervé Dem qui ferait un parcours à Steed à l'Union.
À l'Union, ouais.
Que l'Union qui a un capital sympathie.
Ouais, c'est ça. C'est un club qui fédère, en tout cas qui est consensuel et qui fait plaisir un petit peu partout et notamment même chez les supporters des autres clubs bruxellois.
Maintenant, je suis ravi que l'année prochaine, il y ait trois
clubs. Eh oui, on a fait une belle émission la semaine passée et c'est vrai qu'on en a parlé du retour du RWDM en première
division.
Mais sinon,
c'est vrai que regarder une compétition, c'est-à-dire je suis serein, mais c'est quand même pas le même sel.
Non, mais je sais ce que c'est.
Tu comprends qu'on est parti pris pour.
Depuis les quarts de finale de la Ligue des Champions, je suis assez serein aussi quand je regarde les matchs. C'est vrai qu'il n'y a pas de pression du coup. En tout cas, ce sera la semaine prochaine. On aura droit donc à deux matchs à la même heure. Et ça, c'est quand même important.
Ça, c'est la dernière journée.
Là, ce ne sera pas la même. Je crois que les deux. Non, c'est en France en tout cas qu'il y a les deux dernières journées.
Je sais pas, ils avaient fait des trucs bizarres même pour la dernière journée de championnat.
Pierre joue à 13h30.
Ah oui, t'as raison.
Même en face classique, ils avaient.
Ouais, c'est assez. C'est assez.
Ils ont fait, en termes de calendrier, c'était de façon très particulière. Ils ont mis la finale de la Coupe de Belgique le jour du premier match de play-off.
Alors c'est vrai qu'on en a parlé. Il y avait cette année la Coupe du Monde qui a quand même chamboulé tous les calendriers, qui fait que, ils ont fait aussi comme ils pouvaient. Entre le mois et demi sans compétition dû à la Coupe du Monde et puis tous les autres rendez-vous qui s'installent et qui s'intercalent. Il y a aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de calendrier un peu bizarre, il y a la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui a démarré ce samedi, qui n'est pas une date FIFA. Enfin, en tout cas, les équipes n'ont pas l'obligation, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer leurs joueurs, ce qui est...
Ils ont le choix, en fait.
Ils ont le choix, voilà. Et c'est vrai que les équipes qui sont encore en lutte pour quelque chose et qui ont des joueurs qui ont une importance dans leur... qui ont une importance dans leur... dans le jeu, dans l'effectif, elles n'ont pas tellement voulu libérer leur cadre.
Ça, Bellingham.
Ouais. Jude Bellingham, en France aussi, pas mal. Ils ont vraiment une équipe bis, terre même, qui participe à la compétition. Je ne sais pas si vous avez regardé. Moi, je me suis intéressé. Il y avait le match... d'Israël qui a perdu contre la Colombie et l'Argentine qui a battu l'Ouzbékistan avec une petite innovation. Enfin, une innovation, on l'avait vu, je crois, au Mondial des clubs. L'arbitre explique à un micro et lorsqu'il y a une décision qui a été revue à la VAR, il l'explique au micro et c'est entendu dans tout le stade. Comme au rugby, c'est pas plus mal. Je pense pas que ça change le grand chose parce que dans 90% des cas, on sait pourquoi l'arbitre refuse ou pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être pour ces 10% où on se dit mais pourquoi donc il refuse. Là, il expliquera que. Il n'y a pas faute, selon lui en tout cas, ou selon la VAR. Mais donc, vous voyez, il y a une question de calendrier. Pourtant, une compétition, c'est une compétition FIFA, mais ce ne sont pas des dates qui sont obligatoires.
Contraignantes.
Mais c'est un bon test.
Ouais, ouais,
d'un point de vue logistique, d'un point de vue pratique, comment ça fonctionne. C'est très intéressant. Et de toute façon, ce genre d'innovation...
Il faudrait étudier la réaction des supporters. À ce genre de...
Ça, je peux déjà te le dire. Ce sera des noms d'oiseaux.
Mais cela dit, là, l'arbitrage a été assez serein et encore une fois, c'était... Et même du côté, j'ai trouvé du côté de Genk, pas de réaction, puisqu'il y a un moment dans le match, il y a un pénalty qui est sifflé par l'arbitre et là, finalement, le VAR, après vérification, la faute a été commise en dehors du terrain. Alors, il n'y a pas de raison... du terrain, ça a été compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de réaction un peu épidermique ou nerveuse des joueurs de Genk qui pourtant avaient la possibilité de marquer le deuxième but. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait son chemin. Maintenant, ça commence à rentrer dans la tête des joueurs que on a vérifié et ça ne sert plus à rien de se plaindre parce que ça a été vérifié. Ouais, voilà. Et puis là
c'est difficile parce qu'il y a le pied en l'air, donc c'est sujet à litige. Mais
quand on voit les lignes qui sont tracées parfois sur les hors-jeux, vous voyez juste le bout du nez qui dépasse. C'est vrai qu'il faut pas être trop pointilleux non plus. Enfin, il faut être aussi précis que possible, mais il faut pas que ça tombe dans le ridicule. En tout cas, voilà, l'arbitrage vidéo prend de plus en plus de place et sa place pour aider les arbitres à arbitrer de manière le plus juste possible. C'est bien, c'est un progrès. On verra donc la semaine prochaine ce qu'il en sera pour le déroulé de la fin de ce championnat de Belgique, de cette Pro League. Un mot avant de passer à la Ligue des Champions sur le Play-off 2, même s'il n'y a plus aucune...
Gans est assuré de sa cinquième place,
voilà.
Du tour préliminaire de Conference League. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'ils avaient quand même reçu un sacré coup sur la tête face à Ostende et qui n'ont pas participé au play-off, au Champions Play-off. Ils ont quand même réussi à se ressaisir très rapidement et très facilement.
Ouais. Ce qui prouve peut-être qu'ils étaient, ils étaient quand même un ton au-dessus des autres équipes de ce play-off 2, notamment du Standard qui a quand même... Et de celles qui ne sont même pas en play-off 2, hein, si vous voyez mon regard. Voilà, la caméra est sur toi. Non, et notamment donc du Standard qui jouait contre Westerlo, c'était...
Westerlo, à la maison.
À la maison. Et juste le Standard, on entend des bruits, puisqu'on sait que du côté de Bruges, c'est Eric De Mille qui est actuellement l'entraîneur, qui ne devrait pas forcément rester. Et on parle de Ronny Delia, il y a eu des rumeurs. Il vous a convaincu, Ronny Delia,
convaincant.
C'est vrai.
C'était assez impressionnant de langue de bois.
Ouais.
C'est même pas langue de bois, c'est ce qu'il disait. Il y a le body language qui correspondait pas à son discours, quoi. Qui disait j'ai pas eu de contact. Mais s'il y a. C'était assez.
Assez peu convaincant, Alex.
Je pense que c'est une cellule de communication à Bruges, il a dû se bouffer les doigts, je pense.
Ça risque pas. Mais non, c'est Ronny Della, il est norvégien. Il a déjà une mentalité scandinave, forcément, un accord, etc. Et c'est pas quelque chose qui était censé sortir, d'après moi. Et il y a eu des contacts.
Mais non, il a dit non.
Non, oui, mais il y a eu des contacts. De toute façon, c'est pas parce qu'il dit. Enfin, je peux te dire que la pelouse, elle est bleue. C'est pas parce que je le dis que c'est la réalité. Mais il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts avec Carole Gerhardt aussi. Il y a eu des contacts avec Alfred Schröder, qui était entraîneur l'année passée. Et il y a même le nom de Giovanni Van Bronckhorst, qui a été cité aussi plusieurs fois à Bruges, et qui aurait présenté un dossier très intéressant sur comment il ferait jouer le club la saison prochaine. Donc tu as 4-5 entraîneurs qui sont dans une position favorable pour devenir le nouveau coach de Bruges. Deila en fait partie. Mais pour lui, et ça c'est le danger d'un entraîneur comme il l'a fait cette saison, très très proche des fans, que ce soit dans le stade, après les matchs, ou même dans Liège, qu'on l'a retrouvé aussi avec des supporters, dans des cafés de supporters, etc. C'est le revers de la médaille de cette proximité.
Oui, c'est vrai que si vous êtes...
sorti en trahison.
Ouais, c'est ça.
Oui, mais
voilà.
Ce n'est pas le cas. Je pense que chaque supporter doit comprendre qu'un dirigeant, un entraîneur, un membre du staff ou un joueur est passager dans le club. Ouais. Pour 99,99% des personnes. Et le fait d'avoir cette proximité crée ce lien familial, voilà. Cette attente, et les attentes d'avant la saison comparées à ce qu'ils ont vu font que justement ils sont encore plus attachés à la personne qui a une très bonne mentalité, qui a quand même fait de très belles choses aussi avec le Standard.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il a malgré tout, le Standard, bon, c'est un monument du foot belge et qui n'est pas à sa place cette saison, enfin pas à sa place théorique, hein, sur le jeu, il n'y a pas grand chose à dire, mais il a convaincu quand même dans le football belge, Ronny Della. Après
parce qu'Alex a dit, il a raison, c'est que c'est la première fois, je pense, depuis longtemps qu'il y a un entraîneur du Standard qui a un contact avec les supporters. On sait qu'ils sont. Ils me sentent chaud.
Ouais.
Les supporters, ils tombent très vite sur l'entraîneur. Et là, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu.
Disons que cette proximité-là, c'est assez rare. Mais je pense qu'il y a eu un tas d'entraîneurs, comme que ce soit Rednitch, que ce soit Michel Preud'homme.
Ça fait un moment.
Les 20 dernières années, il y a eu pas mal d'entraîneurs qui ont vraiment fait l'unanimité auprès des supporters. Et je pense que même Guy Luzon, tout à fait au début, c'était un petit peu ça aussi. Avec ce super public, super chaud à Sclessin. Mais alors, il y a le revers de la médaille. Et il a encore un match à domicile à terminer la semaine prochaine. C'est pas forcément dans les meilleurs auspices.
Ouais. On verra ce qui sortira justement encore dans la presse cette semaine. Tu parlais de Carole Gerhardt. J'ai entendu qu'il y avait une rumeur aussi de lui à Nice.
J'ai entendu aussi.
À Nice, peut-être qu'il va aller rejoindre Philippe Clément sur la Côte d'Azur. Et...
Je pense que Philippe Clément ne va pas rester non plus. Sûr, donc, il était d'ailleurs dans les tribunes à Bruges hier.
D'accord, c'est un signe de...
Non, je pense.
Je pense pas que.
Il serait un mauvais choix de sa part.
De la part du club aussi.
Bon, et ben on verra en tout cas. On verra, on va laisser là la Pro League, la Belgique, mais pas les Belges, puisqu'on va attaquer la Ligue des Champions. Et bien évidemment, quand on parle de Ligue des Champions, on peut pas éviter de parler de Kevin De Bruyne. Kevin qui, avec son équipe de Manchester City, mercredi à l'Etihad Stadium, a carrément mis le Real Madrid, tenant du titre, hein, ils les ont mis KO. Offrant un véritable récital, notamment lors d'une première période qui a été éblouissante. Ils ont étouffé les Madrilènes. Je crois qu'ils ont passé une statistique au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes de jeu. Je crois que les Madrilènes avaient fait 10 passes. Enfin, c'était hallucinant. On a eu droit donc à un grand Kevin De Bruyne qui a même trouvé le moyen de s'engueuler avec Guardiola, mais pour la bonne cause. C'était assez sympa. Mais aussi un énorme Bernardo Silva qui est double buteur en première période. Bernardo Silva, dont j'ai vu un mème très amusant le lendemain, il disait la descente aux enfers pour lui. Le 17 mai, il marque deux buts contre le Real Madrid, et le 18, il est contacté par le PSG. En tout cas, quel spectacle et quelle impression de puissance, de facilité laissée par les Citizens et par toute cette équipe. Ce qui est fou, c'est que quand on l'a dit, on le redit encore là, ils ont une profondeur de jeu qui est impressionnante. Mais surtout, voilà, la première période, c'est le plus beau moment de football qu'on ait vu cette saison, non, d'après vous.
C'était une démonstration.
Démonstration, et puis pas face à n'importe qui. Hein.
Non, c'était étonnant de la part du Real. On a l'impression qu'il les laissait jouer, mais en fait, il n'y arrivait pas. Simplement.
C'est ça. Ils étaient tout de suite en retard sur chaque tentative d'interception. Ils n'étaient pas dans le tempo. Les autres jouaient trop vite. Ils se trouvaient les yeux fermés.
C'était du gars de la purgue, hein, vraiment. Avec
exactement,
ouais. Circuler de gauche à droite avec la patience. C'est bouché, on revient derrière, on part à gauche, on part à droite.
Et il n'a pas fait ce qu'on craignait, mais il peut encore le faire lors de la finale. Il a tendance, parfois, on s'en amuse, mais à vouloir être plus malin que tout le monde et à changer, à être là où on l'attend pas, Guardiola.
Non, il a fait du Guardiola, il n'a pas tenté quelque chose.
Voilà, il n'a pas tenté de... aucune...
Mais les Madrilènes étaient étonnamment passifs, je trouve.
Ouais.
Même dans l'agressivité, je trouvais assez... gentil.
C'est vrai.
Demi-finale de Coupe d'Europe.
Ils étaient. Enfin, j'imagine pas qu'ils soient. C'est pas le genre à se résigner, puisqu'on a vu la saison passée les retournements de situation qu'ils ont pu réaliser. Et puis ils sont rentrés en deuxième période avec d'autres intentions. Mais ouais, la première période, elle a été étouffante pour eux. Kevin De Bruyne. Ouais, il est encore.
Et encore Courtois.
Ouais. Et Courtois, et encore, et t'as raison, Courtois qui réalise trois arrêts incroyables
sur Haaland
qui a bien dû se demander comment est-ce qu'il avait fait pour ne pas marquer au cours de ce match-là, parce qu'il a eu des occasions.
Mais quelle équipe, quand Haaland ne marque pas, c'est Bernardo Silva.
Bernardo Silva, il y avait.
Et Alvarez qui met le dernier.
Oui, et Alvarez, qui est champion du monde, qui met le dernier. Il y a Mahrez et Foden qui étaient sur le banc. Il y a Grealish qui fait pas un dribble, mais qui fait des passes magnifiques.
Il y a Walker qui a fait un match sur Vinicius.
Ouais, Kyle Walker et sa puissance physique. Il a été. Ils ont
parce
été...
qu'au moment où le City mène 1-0, le Real commence à sortir un peu le bout du nez. Et ils prennent le deuxième.
Ouais, exactement. Ouais, non, ils ont été. Vraiment la maîtrise, ils ont été parfaits. Puis il y a un beau respect, je pense, entre les deux entraîneurs qui font partie des peut-être les deux meilleurs entraîneurs du monde, hein, Ancelotti et Guardiola. Ça s'est disputé dans une belle ambiance et enfin une bonne communion, une belle ambiance entre une belle attitude, pardon, un bon état d'esprit entre les deux équipes et une belle ambiance pour une fois, parce que c'est pas le stade qui est réputé pour être le plus chaud d'Angleterre, mais là il y avait ça bougeait bien. Il y a eu un moment où on les a vus tous dos au match en train de faire des vagues comme ça, c'était super.
Si en 10 jours tu te qualifies pour une finale de FA Cup, tu vas remporter le titre et tu vas en finale de Ligue des Champions, si là t'as pas d'ambiance, vous m'arrêtez tout de suite. Hein.
C'est vrai. Et donc ils affronteront le 14 juin à Istanbul l'Inter, qui l'a emporté face à son voisin Oni, là c'est Milan.
C'est pas le 10 juin
Non, je crois que c'est un mercredi, non? C'est le mercredi. Pardon, vous avez raison. Le 10, c'est le samedi 10, pardon. Ouais. C'est moi qui ai quelque chose le 14, j'ai eu peur que la finale soit à ce moment-là. Voilà, sauvé. Non,
c'est la finale de ton tournoi, le 14.
C'est ça, voilà. Je vous en reparlerai, mais non, c'est effectivement le 10 juin. Je vais le noter dans mon calendrier. Et donc, ils affronteront l'Inter qui a battu l'AC Milan 1-0. Ils l'avaient emporté 0-2. La victoire a été un petit peu longue à arriver. Ils sont tombés sur un Mike Maignan qui était en grande, grande forme. A priori, On va faire des conjectures comme ça. A priori, le Manchester City est ultra favori, mais tout est possible lors d'une finale, et notamment pour l'Inter, rappelons-le, qui, il y a 13 ans, l'a emporté face au Bayern, qui était lui aussi grand favori en finale. Ils avaient gagné un peu à la surprise générale. Ils avaient sorti le Barça en demi, et ensuite le Bayern en finale. Bon, je ne sais pas si là, ils vont être quand même, ils seront de taille face aux joueurs de Guardiola, mais voilà, c'est une finale, il peut tout se passer lors d'une finale.
Au moment de la désignation des demi-finales, j'avais dit, de mon côté, c'est sûr que c'était le vainqueur de Real.
City qui serait
le grand favori, je pense.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'il...
Maintenant, il faut jouer le match, hein, faut pas qu'ils arrivent en terrain conquis ouais. À Istanbul.
Et c'est vrai qu'ils auront cette... Ils auront la pression, je pense qu'ils auront...
L'Inter a perdu hein, il y a 2 ans une finale du coup.
Ouais.
Pendant le Covid, quand ils avaient fait un Final Four.
Alors Alex, toi tu sais peut-être...
Moi j'allais dire en fait que l'Inter n'a pas eu, à part dans la phase de groupe, n'a pas eu vraiment un adversaire très coriace par la suite. C'était plus ça qui m'a frappé et donc leur chemin vers la finale n'était pas le plus compliqué. Contrairement... Art, Real, City et cette partie-là du tableau. Donc, c'est ça va être fascinant à voir, mais normalement, le récital de City, la manière dont City joue, c'est exceptionnel cette année. Donc ce serait peut-être enfin l'année pour eux si Guardiola ne fait pas une bêtise.
Si Guardiola ne fait pas une bêtise, il ne veut pas être plus malin que tout le monde. Je pense, je ne l'ai pas en tête là, mais ils auront joué la finale de la FA Cup.
Je ne sais pas quand c'est joué.
Je pense que
c'est... Ouais, c'est traditionnellement maintenant,
la finale
Champions League. La Champions League, c'est le dernier match des hautes compétitions, des grandes compétitions.
Et donc voilà, on aura droit à peut-être la cerise sur le gâteau pour... Enfin, plus que... c'est plus le gâteau même carrément pour Manchester City. S'ils remportent la FA Cup avant ça. Avant de parler justement des championnats nationaux, on va donc s'arrêter là en Ligue des Champions et on va rester, par contre, on parlait de l'Italie, des deux clubs italiens, on va rester en Italie, mais on va parler d'autre chose. Et avec toi, Alex, pour...
Et avant qu'on y aille, il y a 26 ans exactement, Schalke gagnait sa coupe de l'UEFA à San Siro avec un pénalty de Wilmots. C'était aujourd'hui.
Ah, c'était aujourd'hui. Marc Wilmots, on le salue. Un petit jingle et puis c'est la minute Sportimize. Alors... On reste en Italie, on change de sport, on parle Formule 1. Formule 1, qui dit Formule 1 et Italie dit Imola. Course de Formule 1 ou pas course, justement, puisque cette semaine devait avoir lieu ce week-end le Grand Prix de Formule 1. Et en raison d'inondations, il a été annulé.
Eh oui, pas de Grand Prix à Imola. Ça a un coût et un fameux. Mais c'est pas unique. Il y a déjà eu quand même 3 Grands Prix en Belgique dans les années 2000 qui ont été annulés également. Aussi à cause d'intempéries, à cause d'autres problèmes, même à cause une fois de publicité pour le tabac même, ça date. Mais ici justement, ce Grand Prix d'Imola, avec ces intempéries, ça allait drainer énormément de monde. Il y a 120 000 personnes qui vont vers ce circuit. Et ça coûte 20 millions à la FIA d'annuler ce Grand Prix. Et toute la région perd... énormément d'argent également, et je pense qu'on est autour des 70 à 90 millions d'euros. Wow. Parce que les personnes vont, il y a le ticket d'entrée, il y a tout ce qui est nourriture, il y a tout ce qui est hôtel. Donc ce Grand Prix est vraiment catalyseur d'une activité économique énorme pour toute la région quand il a lieu. Donc, tout ça passe à la trappe en tous les cas pour la plupart, et donc il y avait le gouffre TV aussi pour la FIA, et c'est d'autant plus dommage, et c'est là où je veux en venir. Parce que de quelque chose de négatif, on va quand même voir quelque chose de positif. Il y a quelques semaines, Imola avait ouvert le circuit au grand public pour une journée sport-famille. Enfin, c'était un week-end sport et famille. Et donc, tu as eu des courses cyclistes sur le circuit d'Imola pour des personnes amateurs. Tu as eu des courses à pied, des runs, des sortes de marathons, mini-marathons sur un circuit de Formule 1. Et aussi, c'est cette journée famille pour les personnes du coin ou même pas d'Italie qui se rendaient à Imola pour un peu découvrir le circuit d'une autre manière.
Ce qui est
et je trouvais ça très intéressant aussi parce que ton circuit, fatalement, il est là. Il y a la course de Formule 1, il y a aussi des MotoGP, il y a un tas d'événements pendant l'année. Mais là, ouvrir ce circuit backstage pour tout le monde, qui peut en profiter sans voiture, sans pollution, on va dire, ça fait aussi partie de notre monde moderne du sport et de ses coulisses, de justement penser à cette nature, penser au physique des gens. Et donc, je trouvais ça une très, très bonne idée d'Imola, d'avoir organisé ça il y a quelques semaines.
C'est bien,
donc,
c'est peut-être... souvent, la Formule 1, c'est un côté inaccessible.
Tout à fait. Donc, c'est peut-être une idée pour Spa-Francorchamps, pour une nouvelle activité prochainement.
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. En parlant de Spa, c'est vrai qu'ils ont annulé assez tôt dans la semaine le Grand Prix. On se souvient d'il y a 2-3 ans où le Grand Prix de Spa avait été maintenu. Et c'était une parodie de course. Ils ont fait quelques tours pour pas avoir à rembourser les gens. Enfin, c'est voilà. Il valait mieux, et pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'image sans doute, que le Grand Prix soit annulé, et ce, suffisamment tôt. Eh bien, ils ont bien fait, même si ça coûte cher, mais ça coûte sûrement cher aux assureurs plus qu'à la FIA. Mais bon, voilà. En tout cas, merci Alex pour cette minute Sportimize. Encore de très intéressantes informations. Alors, je vous propose qu'on fasse un tour maintenant pour terminer, un tour des championnats européens. Et je voulais commencer par ton petit voyage, Alex, mais on va commencer d'abord par autre chose, parce qu'il y a quand même un championnat où on a eu un véritable... On va peut-être avoir droit à un véritable séisme. En tout cas, on a eu droit à une énorme surprise. C'est en Bundesliga. En Bundesliga, donc le titre, il appartient au Bayern de Munich depuis 10 ans. Et le Bayern, surtout, était en tête, avant d'aborder cette 33e journée, en tête avec un point d'avance sur le Borussia Dortmund. Ils recevaient, certes, ce n'était pas n'importe qui, ils recevaient le RB Leipzig, et ils ont ouvert la marque par Serge Gnabry, 26e minute, tranquillement. Ils semblaient s'acheminer vers une victoire, et puis 64e minute, égalisation, et deux buts du RB Leipzig qui sont arrivés par la suite. Et eux qui comptaient un point d'avance, comptaient toujours un point d'avance à l'issue de ce match, mais ils avaient maintenant Dortmund, le Borussia, qui jouait le lendemain, connaissant le résultat du Bayern, et ça n'a pas manqué. Le Borussia l'a emporté à Augsbourg 0-3, et ils reprennent donc la tête du championnat à une journée de la fin avec deux points d'avance. C'est assez étonnant de la part du Bayern, qui est, on le sait, plein de maîtrise. Il y a quand même quelques, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, que, on ne va pas dire que le Bayern c'est plus le Bayern, mais il y a eu le changement de direction, c'est un petit peu plus nerveux. On a changé l'entraîneur, Nagelsmann s'est fait vider à la fin du mercato parce qu'il y avait visiblement l'opportunité Tuchel qui serait peut-être pas repassé après. Et bah, ils vont finalement, il y a eu cette affaire Mané-Sané. Alors est-ce que le Bayern est en train de... Neuer qui s'est cassé la jambe au ski. Après, est-ce que le Bayern ne devient pas un peu plus humain et rentre dans le rang ? Il faut dire qu'après 10 titres de suite, il y a bien un moment où ça allait s'arrêter. Mais là, oui, de cette manière-là, c'est étonnant.
Tu as des mauvais choix, tu as des mauvais transferts, tu as une cohésion d'équipe qui ne fonctionne pas comme elle fonctionnait, etc. Tu as une lassitude aussi de certains cadres. Et donc, tu arrives à ça, mais ce n'est pas plus mal pour le championnat allemand. Et attention, ce n'est pas fini. La dernière
oui,
journée,
c'est ça.
On n'est pas à l'abri de...
Alors,
ils
ne tous...
sont pas effondrés quand même, ils sont en tête du championnat. Ils sont...
Oui, c'est ça. Non, ce qui est étonnant, c'est de leur part, c'est la maîtrise fait que... Parce qu'ils ont été... ils n'ont pas été en tête pendant tout le championnat. Ils ont laissé passer... Dortmund a été en tête, ils sont repassés. Ils sont repassés devant, et je ne m'attendais moi pas du tout à ce qu'ils relaissent une chance à Dortmund de remporter le titre. La dernière journée, ce sera... le Borussia Dortmund recevra Mayence et le Bayern se déplacera à Cologne. Les deux équipes sont 9e et 10e, donc n'ont plus rien à jouer. Mais voilà, une recevra devant dans son stade, je n'arrive jamais à le prononcer, le Signal Iduna Stadion. Voilà.
Avant, c'était le Westfalenstadion.
C'était Westfalenstadion, ça c'était plus facile, enfin pour moi. Et le Bayern ira au stade à Cologne. Et donc, le championnat se jouera à ce moment-là, lors de la dernière journée. Et là, je le précise, les deux matchs seront. Tous les matchs se jouent à la même heure. On va voir, il y aura peut-être donc du changement en Allemagne. Une ligue où il n'y aura pas de changement, c'est... il y aura du changement, mais pas au niveau du classement, il y aura du changement dans l'équipe peut-être. C'est la France, où le PSG a fait un grand pas vers son 11e titre de champion de France en l'emportant à Auxerre 1-2. Il compte 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens qui lui-même l'a emporté 1-3 à Lorient. Mais l'info de cette journée, c'est plutôt du côté de Lille qu'elle s'est produite, c'est l'OM qui a sans doute fait une croix sur la deuxième place après sa défaite 2-1. Alex, tu y étais, raconte-nous, au-delà du match où je crois que les Marseillais avaient plutôt bien commencé avant que les Lillois renversent la vapeur, l'ambiance était comment dans ce stade qui a changé de nom, hein, c'est ça.
C'est la Decathlon Arena également. Donc, c'est le naming. On peut encore faire une nuit de Sportimize à ce sujet si tu en as envie. Lille fidèle à lui-même dans son super chouette stade d'ailleurs. Une bonne ambiance. Il y avait deux tifos, je pense aussi. Il y avait des belles animations. Donc c'est aussi un match phare évidemment quand tu reçois le PSG ou l'OM. C'est quasi le match de la saison. Donc stade comble. Et Lille a eu du mal, a mal commencé son match. Et après, petit à petit, en deuxième mi-temps, il y a eu toute une métamorphose, j'ai envie de dire. Et ils prennent le dessus sur Marseille, qui n'avait pas l'air d'avoir envie non plus. Deuxième mi-temps.
Il y a penalty qui change tout. Non,
Il
y a penalty,
bien sûr.
Et c'est Jonathan David qui a marqué. Oui. Jonathan David.
Mais non, Lille a bien joué. Lille aurait pu mettre plus de buts aussi. Il y a eu quelques face-à-face, ou en tous les cas, des actions qui pouvaient mener à des buts. Et Lille l'a bien fait, mais c'est sympa d'aller à Lille. C'est pas loin, surtout pour les Bruxellois.
Il y avait un début.
Et certainement pour ce type de match. Donc,
il y avait un début de polémique avec pourquoi Tudor n'aurais pas pris Payet.
Parce que Payet est comme un autre joueur, il n'est pas au-dessus du groupe, et je pense que c'est une très bonne gestion du groupe d'Igor Tudor.
Oui, je crois qu'on dit qu'il a commencé à perdre un peu, ça peut aller très vite à Marseille, hein, et il a perdu certains joueurs parce qu'il a des choix. Tu l'as dit, hein, c'est un entraîneur, c'est lui qui doit décider, et il s'en est plutôt quand même bien sorti cette saison, vu les résultats. Mais il y a Guendouzi, par exemple, dont on sait qu'il n'est pas facile non plus, ou Payet, mais il a l'âge qu'il a, et il n'est pas... Il ne peut pas jouer, lui, je pense.
De toute façon, la polémique vient quand tu perds.
Oui, c'est ça. Tant qu'il gagne, personne ne dit rien. Mais bon, ils ont donc sans doute fait une croix sur la deuxième place. Ce sera la troisième. Et donc, il faudra passer par des barrages et autres. Donc, voilà pour la France.
Rennes est encore dans la course. Hein.
Ensuite, ça va se jouer entre Rennes-Monaco pour la Ligue Europa. Lyon l'a emporté, je crois que Lyon a gagné, est champion de France mais de football féminin.
Contre qui?
Contre le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, c'est une semaine gagnante pour Texor après le RWDM qui est monté en première division en Belgique, le foot féminin lyonnais l'emporte. En première ligue, on l'a évoqué rapidement, le City a donc réalisé, a gravi le premier des trois Everest qui le sépare de sa quête du triplé impossible, enfin pas impossible, mais un triplé qu'ils aimeraient vraiment bien réaliser, déjà parce que c'est un exploit en soi, et puis parce que ça fermerait un peu la bouche de la partie rouge de la ville, qui, puisque United l'avait réalisé en 1999, ils n'ont même pas eu à jouer, ils ont profité de la défaite d'Arsenal, malheureusement. À Forest, malheureusement, je dirais, parce que c'est vrai qu'ils ont été enthousiasmants tout au long de la saison, les joueurs de Mikel Arteta, mais il leur manque par rapport à City,
la
profondeur, mais enfin il manque à tout le monde la profondeur devant de Manchester City. Et autre chose, c'est la déconfiture de Chelsea, hein, qui n'en finit pas de... Parce qu'ils ont perdu donc 1-0 face à l'équipe bis de Manchester City. Ni Haaland, ni Kevin De Bruyne n'étaient alignés au coup d'envoi. On se demande bien ce qui va se passer encore la saison prochaine, parce que je pense que Tom Boehly a prévu de sortir encore le carnet de chèques pour faire venir des joueurs. Il en a déjà acheté qui ne sont pas encore arrivés. Et on parle d'un Mauricio Pochettino pour venir remplacer...
Il y a beaucoup de Belges qui sont concernés par la descente.
Ouais, en
Leicester.
Exactement, c'est vrai que Tielemans. Alors, je crois que Tielemans, il est en fin de contrat, non? Donc, il restera.
Everton aussi qui est encore menacé.
Ouais,
non, il... plus que menacé. Hein.
Plus que menacé, mais ça va être
À mon avis, il y a de toute façon un Belge qui va descendre.
Au moins.
Il y aura encore plus. Enfin,
Southampton aussi.
Oui, mais ça c'est déjà acté pour la Via. Mais ici, il y a de toute façon un Belge, que ce soit d'Everton ou que ce soit de Leicester, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui risquent de descendre. Parce qu'il n'y a plus que trois équipes pour deux places. Donc, Leeds est un des concurrents.
Ouais. Donc. Eh bien oui, si vous l'entendez ce bruit, c'est qu'effectivement c'est la fin de l'émission. Un petit mot, il y a Doku qui a marqué un super but en faisant une feinte son classique, comme a dit Thierry Henry, avec Rennes donc, qui l'a emporté 5-0 à Ajaccio. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir, c'était un plaisir d'être avec toi Henri et d'être avec toi Alex. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne semaine. Bonjour.